Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio et l'on retrouve Stéphane Dubreuil pour la chronique Bulle d'Histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Julie, ravi de vous rencontrer à nouveau.
Ben oui, à nouveau, tous les mardis,
voilà, tous finalement les 15 jours,
deux fois par mois, voilà, pour parler de bandes dessinées historiques. Alors quel est votre invité aujourd'hui Stéphane?
Alors c'est quelqu'un que je connais bien, que j'aime beaucoup.
C'est gentil, bonjour à tous.
C'est quand même un avantage d'inviter des gens qu'on aime bien. C'est Jean-Pierre Pecaud. Jean-Pierre est un des scénaristes les plus prolixes et les plus importants de la bande dessinée historique.
Mais oui, je suis désolé.
Question rituelle, Jean-Pierre, que je pose à tous mes invités. Qui êtes-vous ?
Alors, je m'appelle Jean-Pierre Pecaud. Je suis scénariste de bande dessinée depuis maintenant une trentaine d'années. Après avoir été différents scénaristes de cinéma, de livres, de livres-jeux, et au tout début avoir commencé des études d'histoire que je n'ai jamais finies, après m'être aperçu que pour devenir prof d'histoire, l'important c'était pas trop l'histoire, c'était d'aimer les enfants, ce qui n'était pas mon cas, donc j'ai rapidement arrêté. Surtout pour les enfants, en fait, c'était mieux.
Donc, je disais que vous étiez très, très prolixe, effectivement. Quand on regarde votre bibliographie, on décompte à peu près 187 albums différents. C'est pas mal. Beaucoup d'albums...
D'aucuns disent c'est trop, même.
Oh, mais on continue. Beaucoup d'albums de fantasy, de science-fiction, beaucoup d'histoires et surtout depuis quelques années, beaucoup d'Uchronie. Vous êtes un peu le spécialiste du scénario uchronique. Alors, qu'est-ce que l'Uchronie ?
C'est un sous-genre de la science-fiction qu'on a démarré il y a une bonne dizaine d'années avec mes deux camarades, Fred Duval, et qui est co-scénariste sur la série Jour J, et Fred Blanchard, qui est le directeur de collection des éditions Delcourt. À ma connaissance, ça ne s'était pas fait avant, en tout cas d'une manière aussi systématique, d'avoir une collection d'Uchronie en bande dessinée. Alors, qu'est-ce que c'est l'Uchronie ? L'Uchronie, c'est assez simple. C'est qu'est-ce qui serait passé si un élément historique ne s'était pas déroulé comme il s'est déroulé. Alors le pont aux ânes de l'Uchronie, c'est qu'est-ce qui serait passé si Napoléon avait gagné à Waterloo? La réponse est rien, il aurait perdu plus tard, mais par contre il y a des uchronies, donc ça c'est pour dire qu'il y a certaines uchronies qui ne sont pas très intéressantes parce que les conséquences sont généralement nulles. Par contre il y a énormément d'uchronies qui peuvent être très intéressantes parce que l'histoire va suivre un cours qui va être totalement différent de celui qu'on apprend habituellement dans les cours d'histoire.
Comment on fait une bonne uchronie ? Parce que j'imagine qu'on peut vite tourner dans le n'importe quoi historique.
Alors tout à fait, oui. D'ailleurs ça s'est fait, le n'importe quoi historique. Nous-mêmes d'ailleurs, on en a fait quelques-uns, à notre grande honte. En fait, il faut trouver le bon point uchronique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le point uchronique, c'est le moment où l'histoire va basculer. Alors c'est pas évident parce que, grosso modo, tout est uchronique. Dans 10 minutes, on peut avoir une uchronie lorsqu'on va tous sortir du studio. Au lieu de prendre à droite, on va prendre à gauche. Il va se passer quelque chose de différent et on aura une uchronie. Puis après, il y a des pièges que nous, on s'est efforcé de ne pas... dans lequel on s'est efforcé de ne pas tomber. Parce qu'il y a des uchronies... Par exemple, il y a des uchronies révisionnistes. Alors ça, c'est très, très à la mode dans certaines séries de bandes dessinées. Et maintenant, c'est qu'est-ce qui serait passé si Hitler n'avait pas perdu la guerre. Là aussi, c'est pareil. Rien, parce que c'est pas possible. Au départ, on était parti sur des albums d'un seul tome, des one-shot, comme on dit en bon français. On s'est vite aperçu que sur cette uchronie, c'était pas possible, qu'il fallait passer à deux, voire à trois tomes. Un bon exemple de Jour J qui serait une uchronie réussie, c'est si la révolution de 17 n'avait pas eu lieu, parce que c'est vraiment pas évident que Lénine réussisse son coup en 17. Et à partir de ce moment-là, on a notamment avec la fin de la Première Guerre mondiale et après avec la Russie qui ne serait pas devenue l'Union soviétique, on a des conséquences qui sont faramineuses sur le XXe siècle.
On va parler de votre dernier album qui sort aux éditions Delcourt, qui est votre éditeur traditionnel.
Unique et préféré, on va dire. Pas tout le temps, hein. J'ai fait quelques infidélités, mais c'est vrai que c'est quand même un... Tiens, bah, je vais rendre hommage à Guy Delcourt qui vraisemblablement n'écoute pas. Parce que c'est vrai que c'est un éditeur qui a été décrié par moments par un certain nombre d'auteurs. Et moi, ça fait quand même 25 ans que je travaille avec lui après avoir traîné mes guêtres dans plein de maisons d'édition, alors pas BD mais livres, et c'est vrai que c'est un grand éditeur, c'est quand même quelqu'un qui tient parole déjà, ce qui est de plus en plus rare par les temps qui courent, et qui fait confiance, et donc voilà, donc c'est mon éditeur pas unique et préféré mais pas loin quoi.
Le dernier album que vous sortez s'appelle Cœur de ténèbres, donc vous êtes au scénario et au dessin, c'est Benjamin Bachelier, c'est pas une uchronie mais on est dans quelque chose de... qui s'en approche quasiment. Vous avez pris la nouvelle de Joseph Conrad, qui s'appelle Au cœur des ténèbres, et vous avez installé l'histoire donc de Conrad au cœur du Marais de la Brière. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter un peu ce qu'est cette nouvelle, sachant qu'elle a servi de base à quelques grandes œuvres comme Apocalypse Now, ou bien Aguirre, la colère de Dieu?
Il y a plein. C'est un destin assez extraordinaire, la nouvelle de Conrad, parce que c'est une des rares nouvelles. Déjà, il faut dire que bon, Joseph Conrad, à mon sens, fait partie des 3 ou 4 plus grands écrivains du 19e, 20e. Et sa nouvelle a eu plein de petits. C'est assez étrange, mais je pense que c'est parce que justement c'est une nouvelle qui n'est pas seulement, il traite quelque chose d'universel, donc en fait ça a été décliné par plein d'auteurs sous plein de formes différentes. En bande dessinée, je suis pas le premier à avoir fait une adaptation du Cœur des Ténèbres. La plus connue des adaptations, c'est effectivement le film de Coppola. Et à la limite, je dirais que la BD que j'ai faite a plus à voir avec le film de Coppola qu'avec la nouvelle de Conrad. La nouvelle de Conrad, en fait, c'est une nouvelle assez simple. C'est un capitaine de marine marchande qui est engagé sur un espèce de rafio sur le fleuve Congo. Il va remonter le fleuve pour aller chercher le responsable du trafic d'ivoire d'une grande compagnie belge qui est devenu fou. C'est grosso modo ce qu'on apprend à la fin, et pendant toute la nouvelle on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas quels sont les buts de la compagnie qui va le rechercher, et en fait le Marlowe, le héros de Conrad, va s'apercevoir que le responsable du trafic d'ivoire a bâti une espèce de royaume barbare dans lequel il est devenu un potentat. Tous les personnages sont ni noirs ni blancs, et à la fin on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Et alors la fin de Conrad, c'est l'horreur, les 3 mots prononcés par le Kurde en train de mourir. On a tout dit à propos de cette nouvelle, c'est-à-dire que c'était une dénonciation du colonialisme, que c'était une étude sur la folie, que c'était c'était plein de choses.
L'album que vous avez écrit et publié se passe pas en Afrique, donc se passe en Vendée, pendant les guerres de Vendée.
À la fin des guerres de Vendée.
Pourquoi avoir choisi cette période? Est-ce que c'est parce que c'est une période extrêmement ensauvagé, j'allais
dire.
C'est
une suite de concours de circonstances, ce bouquin assez étrange, puisque moi c'est un peu ce qu'on appelle, un terme que je déteste, mais enfin il n'y en a pas d'autre, c'est de la nouvelle BD ou du roman graphique, enfin bon, je trouve que ça c'est une plaisanterie, mais en tout cas c'est un style de BD que moi je fais assez peu, et là c'est vrai que c'est une rencontre de moi-même, je ne serais pas parti là-dedans. Du tout. C'est Fred Blanchard, donc le directeur de collection de Delcourt, qui est aussi un ami de 25 ans, qui connaît Benjamin Bachelier, qui est lui nantais, Donc, on commence à avoir un lien qui m'a proposé, il y a maintenant plus de 2 ans, de voir si jamais je pouvais trouver une histoire qui serait racontée, qui serait dessinée par Benjamin. Pour dire la chose comme elles sont, moi, j'étais pas très chaud. Parce que c'est vrai que c'est une façon de raconter, d'écrire un scénario que je ne connaissais pas. C'est un dessin qui est très très particulier, très graphique. Voilà. Et bon, je me demandais effectivement si c'était une bonne idée. À partir de là, moi j'ai cherché un peu, puisque un peu en matière de plaisanterie, Benjamin avait dit, moi j'aimerais bien écrire quelque chose qui a un rapport avec le pays où j'habite, c'est-à-dire le pays nantais, grosso modo. Et donc, effectivement, je suis assez rapidement tombé sur la Révolution et sur les guerres de Vendée, puisque c'était quand même l'épicentre de cet épisode, et sur un endroit que je ne connaissais pas, c'est ces fameux marais, en fait, qui sont en face de Saint-Nazaire, qui sont immenses. C'est vraiment une étendue fabuleuse qui va de la mer à quasiment aux portes de Nantes, et qui, à l'époque, était quasiment inexploitée. C'était vraiment une jungle. Il y a quelques habitants, et on a eu après m'être lu quelques bouquins, il y a eu effectivement des chouans et des troupes blanches qui se sont carapatées dans les marais après les défaites contre les bleus. Et là, je commençais à avoir une base. Et puis après, ben, Conrad il s'est vite imposé, mais c'est vrai que moi, Conrad s'impose à peu près sur un bouquin sur deux. Quand je... Donc voilà. Et l'idée de faire remonter un bleu, donc un soldat républicain, à la recherche d'un officier républicain devenu fou et bâtissant une espèce de royaume barbare à l'intérieur de ces marais, ben voilà, on avait la trame d'Au cœur des ténèbres et on avait la trame du bouquin.
Parce que les marais que vous décrivez, c'est vraiment un endroit très sauvage. Il y a des espèces d'enfants perdus qui vivent là, il y a des...
Ah, c'était extrêmement sauvage.
Des gens qui
apparaissent. Ça l'est toujours, d'ailleurs.
Qui sortent de l'eau, enfin, c'est très étonnant. Comme...
Non, c'était... Il y a plusieurs bouquins qui sont sortis sur les enchantements de ces marais, et c'est vrai que c'est... Il faudrait que j'y aille un jour, d'ailleurs, parce que j'ai jamais foutu les pieds. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un endroit assez féerique, assez magique, assez étrange, avec effectivement, on ne sait pas où s'arrête l'eau, où commence la terre, avec de la brume, avec des choses comme ça, et avec très peu de population, c'est-à-dire que les gens vivent sur des îlots. Il y a 2-3 îlots qui forment des villages maintenant, qui sont reliés à des routes, mais de manière très récente. Et à l'époque, c'était la lune, quoi.
Mais ça, le dessin de Benjamin Bachelier le rend très très bien, justement. Il est parfaitement adapté à cette ambiance un peu lunaire, un peu crépusculaire.
Alors voilà, c'est ça, c'est justement là où moi j'ai eu une très heureuse surprise, c'est que je ne savais pas du tout comment Benjamin allait travailler cette ambiance-là, qui est très particulière, effectivement. Donc lui est parti sur du noir et blanc avec quelques taches de couleur de temps en temps, et c'est vrai que le résultat est époustouflant. Moi, quand j'ai vu les premières pages, j'étais vraiment sur le cul, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et il est exactement dans l'ambiance à la fois de la nouvelle de Conrad et du lieu en question, donc près de Nantes.
Il y a un personnage très étonnant, ce qu'on ne s'attend pas à trouver là, c'est l'Indien qui accompagne cet officier qui part donc sur le marais à la recherche du capitaine Sherbe.
Alors là, il y a effectivement...
Que vient faire un Indien dans cette affaire ?
Alors, parce qu'il y avait des Indiens dans cette affaire, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé de la trame, j'ai commencé un peu à me documenter et à lire ce que je pouvais trouver sur les guerres de Vendée, surtout la fin des guerres de Vendée, qui sont... La guerre de Vendée en tant que telle est une guerre civile, déjà atroce en soi, mais voilà. La fin de la guerre de Vendée, certains emploient le terme de génocide, je ne sais pas, parce qu'il faut faire attention avec les mots. Mais en tout cas, c'est quelque chose de tout à fait atroce, absolument pas nécessaire, et où les massacres sont légion. Dans les personnages qui sont partie prenante dans cette guerre, il y a, à ma grande surprise, quelques personnages qui reviennent avec des Indiens de Nouvelle-France. qui sont soit comme serviteurs, soit comme amis peut-être.
La Nouvelle-France, c'est l'Amérique.
La Nouvelle-France, c'est l'Amérique, absolument. Et il y a également, puisque Nantes était un grand port de traite, donc la traite des esclaves noirs, il y a aussi des textes qui disent que un certain nombre de cargaisons d'esclaves noirs ont été libérées au moment de la Révolution. Et que ces gens-là sont partis, Dieu sait où, en tout cas on leur a rendu leur liberté à la grande fureur des marchands nantais. Pourquoi pas partir dans les marais donc, et avec le colonel en question, compte tenu que la Convention, donc là, les troupes républicaines, ont eu une troupe de cavaliers noirs, dont Dumas, d'ailleurs le père d'Alexandre était à la tête.
Un grand général. Pour terminer, je voulais parler du dessin avec vous, parce qu'effectivement l'album est quasiment exclusivement en noir et blanc. Et à la fin, on a une explosion de couleurs qui rappelle Basquiat, qui rappelle d'autres peintres. C'est vous qui avez eu cette idée-là ou c'est Benjamin qui a amené cette couleur à la fin et on est
plongé dans
la folie.
Non, ça c'est Benjamin qui amène à la fin puisqu'on se dit comment on finit en fait. Et moi j'avais fait une première version où on finissait avec du texte. Parce que moi c'est quasiment mon défaut en tant que scénariste, c'est que par rapport à un dessinateur, c'est que moi j'écris que lui il dessine. Et Benjamin avait dit non, moi je préférerais que tu me donnes les grandes directions mais qu'on en parle simplement et après tu me laisses faire. Et c'est vrai que toute la fin, là aussi, c'est une autre manière de travailler. C'est-à-dire que généralement, en bande dessinée, le scénario précède le dessin. Là, ça a été souvent l'inverse. C'est-à-dire que j'ai souvent eu à écrire des dialogues ou du text-off sur les dessins de Benjamin qui avaient déjà été faits. Et donc c'est vraiment une méthode, enfin moi j'avais pas l'habitude, c'est une méthode de travail un peu différente.
Oui parce qu'il y a beaucoup de planches complètement muettes d'ailleurs.
Il y a des planches qui sont totalement muettes et au début Benjamin était très embêté parce que je mettais trop de texte et il savait pas comment me le dire et bon, au bout d'un moment il m'a dit voilà moi je suis embêté parce qu'en fait voilà il y a trop de texte, on fait pas du franco-belge entre guillemets, c'est-à-dire 6 cases avec 2 bulles de dialogue par case, on est sur autre chose et donc voilà, est-ce que je peux adapter ? Donc bien sûr tu peux adapter et ça a donné ça.
Oui, quand on vous connaît, des planches muettes, c'est...
C'est rare, oui. C'est rare.
On a presque fini sur cet album. J'avais une dernière question qui est sur le métier de scénariste. Comment un scénariste s'adapte aux dessinateurs ? Parce que...
Avec difficulté.
Surtout sur les 180 albums, il y a quantité de dessinateurs. Comment ça marche ?
Alors, ça dépend des dessinateurs. Alors, sur Benjamin, on a un peu répondu avant. On a eu vraiment une collaboration où c'est plutôt Benjamin qui me pilotait que l'inverse. Généralement, c'est l'inverse. Et c'est moi qui commence à écrire un scénario. Et selon le scénario, quand on commence avec... donc, le 90% de mes scénarios sont édités par Delcourt et donc par Série B et donc par Fred Blanchard. Et quand on commence à bien se connaître avec Fred, à partir du moment où je commence à écrire un scénario, il sait quel dessinateur va correspondre plus ou moins bien avec l'histoire. Donc on contacte ces gens-là plutôt que d'autres. Il n'y a quasiment pas de cas d'école. Il y a des dessinateurs avec qui je m'entends très très bien et que je connais depuis très longtemps, comme par exemple Igor Corday, qui va me faire changer des pages entières parce qu'il aura d'autres idées. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est un échange. D'autres dessinateurs qui, et ça c'est peut-être pas une bonne chose d'ailleurs, vont illustrer à la virgule près ce que je raconte. Ce qui à mon avis est une erreur parce que je crois que vraiment un scénario BD c'est un peu comme un scénario de film. C'est-à-dire que ça doit être après pris en main par soit le réalisateur, soit le dessinateur pour en faire autre chose. Sinon ça reste un scénario. Et puis il y en a d'autres effectivement qui, comme Benjamin, vont renverser complètement le processus de travail et avec lequel je vais quasiment écrire les dialogues sur les images déjà faites.
Ben, je vous remercie Jean-Pierre de cet échange riche. Donc Julie, je vous repasse la parole.
Ben oui, merci beaucoup Stéphane, merci Jean-Pierre Pecot. Donc je rappelle que vous êtes le scénariste de la bande dessinée qui s'intitule Cœur de ténèbres avec au dessin Benjamin Bachelier. Et c'est donc aux éditions Delcourt, comme vous l'avez rappelé, collection Mirage, pour la modique somme de 16,50 €.
C'est quasiment donné, oui.
Voilà, c'est quasiment donné pour une bande dessinée. Merci beaucoup Stéphane pour cette belle émission Bulle d'Histoire. On se retrouve dans 2 semaines.
Dans 2 semaines, absolument. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Bulle d'Histoire. Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.